Et bonjour à toutes et à tous, il est 17h.
Equinox FM.
Et bonjour à toutes et à tous, il est 17h et jusqu'à 18h, vous retrouvez l'émission de Scanner sur les ondes d'Equinox FM. Bonne soirée à tous.
Scanner. Tous les derniers mercredis du mois, de 17 à 18h, retrouvez Scanner, l'émission proposée par les jeunes pour les jeunes. Podcast, lecture, musique, débat, invité. Viens rejoindre l'équipe de chroniqueurs pour débriefer l'actu qui te concerne. Sois branché tous les derniers mercredis du mois de 17 à 18h pour Scanner sur Equinox FM. Rediffusion le dimanche de 15 à 16h.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Que vous soyez dans votre salon, au travail ou sur la route, vous allez passer la prochaine heure en compagnie de Scanner, comme la voix vient de le dire, l'association qui prône l'expression des jeunes dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, très court rappel de ce qu'on fait pour ceux qui ne le savent pas. On est une ASBL, voilà, où on va vraiment chercher l'état de santé des jeunes dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment via des ateliers d'écriture qu'on va faire dans des IPPJ, des maisons de jeunes, des écoles, enfin bref, dans plein de milieux sociaux pour que tous les jeunes soient égalité et puissent faire porter leur voix de manière vraiment concrète. Et d'ailleurs, on parle de jeunes. Notre slogan, c'est un peu « par les jeunes, pour les jeunes », étant donné qu'ici, nous sommes aussi des jeunes sur Equinox FM. Je suis entouré de 4 personnes, de 4 fidèles acolytes qui cette fois-ci sont là. On a notamment Bruno. Bruno, comment tu vas ?
Ça va, c'est pas le sujet le plus simple au monde, mais...
Je ne l'ai pas encore abordé, le sujet, donc ne spoile pas encore. Voilà, comme Bruno vient de le dire, on a à chaque mois, chaque dernier mercredi du mois, une émission où on aborde un sujet qui est proche des jeunes. Ici, notamment, ce sera... Et non, je vais pas le dire maintenant, je vais d'abord continuer de présenter les invités. On a d'abord Fortuné. Fortuné, comment tu vas ?
Très bien, malgré la pluie dehors, oui, très bien.
Ça commence à être déprimant, on s'approche tout doucement de l'hiver, ouais. On est en plein dans l'automne, ça commence à être un peu triste. D'ailleurs, ce matin, j'ai démarré, il faisait noir. C'était vraiment déprimant de démarrer comme ça dans sa voiture avec les gros phares. Pierre, ça va ?
Ah, quel plaisir d'être là, d'être enfin de retour sur ce magnifique plateau.
C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a plus entendu ta voix sur Equinox FM. Tu nous avais quitté pendant quelques mois, mais te voilà, ça va pas trop stressé de retrouver l'antenne ?
Ah, je me sens parfaitement à l'aise.
Super, ça s'entend hein, ta voix. Et enfin, on a Emma, notre dernière invitée, qui d'ailleurs a fait une interview pour cette émission sur, je le dirai toujours pas, le sujet. Emma, comment tu vas ?
Ah, moi ça va super, les journées sont longues mais ça va, et toi comment tu vas ?
Ça va, donc tout le monde est un peu fatigué, moi aussi, d'ailleurs j'ai les mains remplies de peinture, petite dédicace pour ceux qui savent ce que j'ai fait, mais voilà, tout le monde est un peu fatigué mais tout le monde est quand même content d'être là, donc c'est le plus important. Et aujourd'hui, je vais le dire cette fois-ci, le sujet du mois, c'est, attention, c'est un sujet qui est quand même, je suis là, je suis tout joyeux, etc., alors que le sujet n'est pas du tout joyeux, c'est un sujet qu'on entend de plus en plus dans les médias, dans l'actualité, notamment en Ukraine, en Israël, en Palestine, en Russie, et même aussi en Afghanistan, pour le moment, c'est la guerre. La guerre, le militaire, les conflits, c'est un sujet, donc voilà, le ton est donné, voilà, on était bien lancé sur notre... partie dynamique radio. Non, ici on va discuter pendant une heure, mais aussi un peu jouer. Vous allez voir, on va dédramatiser tout ça, on va débattre sur le sujet de la guerre. Est-ce que vous avez un premier mot à dire sur le militaire, les amis d'Equinox FM ? Je sais que c'est très très large, mais on va lancer l'émission là-dessus. Et voilà le gros blanc. Pourquoi ? Parce que la guerre, c'est très large, c'est très compliqué et on le vit tous les jours, ça fait peur à tout le monde. Moi, lorsque j'en parle, tout le monde me dit « j'ai peur ». Que ça vienne jusque chez nous. Est-ce que vous pensez qu'on est à l'abri ici, en Belgique ?
Vas-y, Fortuné, vas-y, lance-toi.
Enfin, avant de répondre à la question, je vais faire quelques observations. Enfin, étant donné que je m'intéresse beaucoup, moi, dire à la politique et à la géopolitique, moi, j'ai pas l'impression que la guerre ait déjà pris fin dans le monde. Donc moi, quand on parle de guerre et que les gens sont un peu choqués. Enfin, je dis pas que je trouve ça bizarre qu'ils soient choqués, mais voilà. Enfin, moi, comme je vois qu'il y a toujours eu des guerres depuis la nuit des temps, donc je suis pas trop choqué quand il y a des conflits qui se déclarent dans certains coins du monde. Après, quant à ta question, à savoir si la guerre peut arriver jusqu'à chez nous, enfin, j'ai envie de dire pourquoi pas. Qu'est-ce qui ferait que ça arriverait pas ? Donc,
on verra seulement. Est-ce que tu dis que la guerre n'a jamais terminé ? C'est vrai que là, on a l'impression d'être en guerre parce que les pays qui sont touchés sont des pays qui sont alliés, avec de gros guillemets, donc des pays qui sont plus proches de nous. Parce que s'il y a une guerre, parce qu'il y en a en Asie, en Afrique, c'est des pays qui sont moins couverts par nos médias. Et c'est vrai qu'il y en a, et on n'en parle pas assez. J'ai parlé de l'Afghanistan. Qui savait qu'il y avait un gros conflit pour le moment en Afghanistan ? On n'en parle pas assez. Est-ce que vous savez ?
Moi, j'aimerais juste prendre des pincettes quand on dit qu'on est en guerre, parce que, à vrai dire, moi, voilà, je pense que on pourra dire qu'on sera en guerre vraiment quand on devra prendre les armes et qu'on devra défendre nos familles, nos proches. Mais par contre, si je devais porter un discours plus nuancé, sans être un expert en géopolitique, je pense qu'on est complice, dans le sens où dernièrement on a envoyé nos F-16 à l'Ukraine. Ouais. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a rien qui retiendrait la Russie de nous attaquer, vu qu'on n'arrête pas d'envoyer des armes à l'Ukraine. Donc l'Ukraine, on y reviendra plus tard dans l'émission, hein, mais je veux dire... Je vois pas qu'est-ce qui pourrait retenir la Russie. Après, comme je dis, je ne suis pas la politique tous les jours qui passent.
Alors pour expliquer un peu ce que tu dis là, pour ceux qui ne savent pas, Zelensky est venu, donc le président de l'Ukraine est venu ici à Bruxelles et on lui a pas encore envoyé nos F-16, mais on lui a dit que lorsque nous on recevrait nos F-35 d'Amérique, bref, on leur enverrait les F-16. Donc très clairement, c'est un peu une sorte de petite déclaration de guerre, comme tu dis, à la Russie. Et puis même si on parle pas d'F-16 et de munitions et tchic-tchac, on sanctionne la Russie. Donc on passe là-dedans. Mais bref, l'Ukraine, on en parlera après, c'est un sujet très compliqué. Dans la deuxième partie de l'émission, on aura d'ailleurs notamment l'invité de Emma, enfin qui n'était pas présent, mais que tu as été interviewé, qui est un prof de l'université, je pense, qui pourra un petit peu nous éclairer là-dessus. Mais tu as raison, Bruno, c'est marrant quand même de voir que des institutions, enfin non, c'est pas du tout marrant, mais c'est spécial de voir que des institutions qui portent dans leurs valeurs principales le pacifique, l'anti-conflit, etc., comme l'Union européenne, qui disent allez Israël, quoi. Vous en pensez quoi de ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux?
Ah là là, le sujet sensible.
C'est un sujet sensible, ouais.
En fait, moi, ce que je trouve très dommage avec ce conflit qui existe depuis qu'on est tous nés, en fait.
1948.
Voilà, c'est qu'en fait, c'est seulement quand la situation devient explosive qu'on en parle. Et aussitôt que la situation, entre guillemets, se calme, donc que les... À partir du moment que la situation se calme un peu, bah, tout le monde oublie et tout le monde retourne à sa vie normale. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui me dérange beaucoup avec ce conflit.
Tu sais, j'ai entendu quelqu'un dire que bah, là, pour le moment, on est en plein dedans avec la Hamas, etc. Mais j'ai entendu quelqu'un dire, oui, non, la guerre en Ukraine, c'est passé de mode. C'est quand même dingue d'entendre ça, de se dire, oui, la guerre, bah, voilà, il y a eu les grosses explosions du début, etc. On se dit, OK, c'est parti. Et puis maintenant, ben... Voilà, ça se tasse. Oh, il y a une nouvelle guerre, là, boum, les médias sautent dessus. L'Ukraine, ça devient le fait divers, quoi.
C'est malheureux à dire, mais c'est aussi aux médias de bien faire leurs choix éditoriaux. Et c'est sûr qu'à un moment donné, c'était pareil avec le Covid. On nous parlait du Covid tous les jours qui passent. C'est pour ça que je ne regarde quasiment jamais la TV. Il y a comme un espèce de... On s'enferme dans une cage et on peut déprimer à chaque seconde qui passe.
Ouais. Le truc, j'ai l'impression que... Enfin, quand c'est des sujets qui durent pendant très longtemps... Ben c'est pas facile de se tracasser de quelque chose qui nous concerne pas directement pendant des mois et des mois. Et
à part pour le prix des pâtes. Hein. Le prix des pâtes, explosion.
Oui, certes, mais par exemple, ouais, le conflit au Moyen-Orient ou quoi, ouais. Si jamais il continue à avoir des grosses explosions, des grosses vagues de morts et de migration, on va continuer à en parler et se tracasser. Mais si jamais le statu quo... finit par arriver et qu'il y a toujours un conflit, ben on va très vite s'en désintéresser aussi. C'est un peu ce qui se passe pour l'instant en Russie et en Ukraine. Ben, ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, vite fait, des attaques de ci, de là. Mais,
c'est toujours aussi horrible, mais il n'y a plus le moment où ça fait boum et se dit « Ah, là, il y a une information intéressante », alors que tous les jours, il y a des morts. Tous les jours, en Russie et en Ukraine, il y a des morts.
Mais moi, voilà, je suis un grand passionné de journalisme, mais parfois, il vaut mieux se fier aux historiens ou en tout cas aux manuels d'histoire, parce que malheureusement, une des failles du journalisme actuel, c'est le culte de l'instantanéité, donc on veut tout savoir tout de suite. Ouais. Et parfois, on peut même le voir sur des chaînes comme BFM TV où le journaliste est directement sur place et il amène rien, il brasse du vide. Donc parfois, c'est juste, voilà, faites vos propres recherches. Vous n'avez pas besoin de regarder le journal télévisé chaque jour qui passe. Vous pouvez aussi aller voir ailleurs.
Ben justement, Bruno, tu as l'air d'avoir un avis assez éclairé là-dessus. Tu nous as dit justement que tu avais lu un texte un jour, un texte recueilli pendant, je pense, un atelier de scanner qui t'avait particulièrement marqué et ça t'a tenu à cœur de le lire aujourd'hui.
Oui, exactement, si je peux juste l'introduire. Donc la semaine dernière, on était envoyé par le Conseil supérieur de l'éducation aux médias, donc un organe de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et le but, c'était vraiment de stimuler la curiosité des jeunes pour un peu présenter le journalisme actuel. Alors le but, c'était pas de les bombarder de chiffres ou de recherches scientifiques, mais plus de vraiment leur dire comment les journalistes fonctionnaient actuellement. Et à Bruxelles, à l'école Saint-Lambert, l'Athénée Saint-Lambert, qui se trouve à Woluwe, il y avait cette jeune fille qui s'appelle Maria, qui a 17 ans, qui avait écrit une critique sur le livre « Une bouteille dans la mer de Gaza ». Et ça m'avait ému parce qu'il y avait quelque chose de très pacifique dans ce texte. Mais si vous voulez, on peut en débattre après, je peux le lire.
Vas-y, donc, fais-nous cet honneur.
Ce texte s'appelle « Ma source d'aspiration », écrit par Maria, 17 ans, à Bruxelles. Le livre « Une bouteille dans la mer de Gaza » a été une source d'inspiration inestimable dans ma vie. L'histoire poignante et captivante de ce roman m'a profondément touché et a déclenché en moi une transformation dans mon parcours. Le livre explique l'échange de lettres entre une jeune Israélienne, Tal, et un jeune Palestinien, Naïm, qui veut devenir médecin. Tal place une lettre dans une bouteille qu'elle jette à la mer depuis une plage israélienne. Naïm trouve la bouteille, découvre la lettre et décide de répondre. Ma passion pour devenir médecin est une flamme qui brûle en moi depuis ma lecture de ce livre. La description par Naïm de ce métier me laisse sans voix. À l'aide de ce livre, j'ai appris à avoir une meilleure compréhension mutuelle, car le livre met en lumière la possibilité de surmonter les barrières culturelles, les barrières politique grâce à la communication. Cela m'a également aidé à inspirer le dialogue et la paix. Le livre influence la réflexion aux conflits mondiaux et à la recherche de solutions. Ma critique aujourd'hui se base sur ce livre et la situation difficile que le monde vit en ce moment. J'en ai marre qu'on me demande de quel côté je suis. Israël, Palestine, non, non et non. Je suis pour l'humanité avec un H majuscule. Je suis pour la paix dans le monde. Pourquoi choisir un clan ? Ne sommes-nous pas tous des humains ? Nous pouvons tous communiquer comme Tal et Naïm l'ont fait. Battons-nous pour la paix, l'égalité et l'humanité, même si nous venons d'ethnies différentes.
Moi, il y a trois concepts qui me viennent directement à l'esprit lorsque j'entends ce texte. C'est la première fois que je l'entends, je l'ai entendu là en direct. C'est ouverture d'esprit, esprit critique et éducation aux médias. Bah, d'ailleurs, éducation aux médias, c'était le but de l'atelier.
Oui, exactement. Et je leur avais demandé d'écrire une critique sur une œuvre qui avait bouleversé leur vie. Et donc, des jeunes avaient parlé de romans, d'autres de films.
Je suis un peu ému et choqué, en fait, parce que ce livre, je l'ai lu aussi il y a super longtemps. Et ça fait partie de deux livres qui m'ont complètement... qui ont changé ma façon de voir les choses. Enfin, le premier livre que j'avais lu, c'était Parvana, une enfance en Afghanistan. Puis j'avais lu Une bouteille dans la mer de Gaza. Et en fait, c'est trop choquant de voir que le livre reste autant d'actualité et permet autant d'éveiller la curiosité par rapport aux situations dans cette partie du monde. Et c'est vrai que ce livre est tellement magnifique. Enfin, la fin est... Enfin, je vais pas spoiler, mais c'est un livre qui est tellement bouleversant et... Ouais, franchement, je suis un peu ému.
Ouais, ça fait partie des... Donc c'est vraiment un ouvrage qui a marqué pas mal de monde.
Franchement, le livre est très très bien écrit. Comme on dit, en fait, c'est un échange de lettres entre un Palestinien et une Israélienne. Et franchement, tu vois la guerre à travers les yeux des enfants.
Ouais.
Et tu vois en fait comment ils évoluent par rapport à cette situation et... Enfin, comment ils deviennent adultes, en fait, dans la guerre. Et c'est franchement un très, très beau livre que je conseille à tout le monde d'aller lire.
Mais d'ailleurs, moi, j'ai un autre livre qui est sûrement pas du tout le même style, mais ça me fait penser à ce que tu viens de dire avec des lettres d'enfants. En fait, justement, ici, chez Scanner, tu n'es pas sans le savoir, on est parti avec pas mal de jeunes, je pense que c'était aussi en Israël et à Gaza, etc. On a été dans pas mal d'endroits. Et tous les jours, les jeunes qui étaient avec nous devaient écrire des lettres ou des textes ou tout ce qu'ils voulaient sur ce qu'ils ressentaient là-bas. Et on l'a tout recueilli dans ce livre qui s'appelle Bruno.
Là, tu viens de toucher à un souvenir. Je l'ai rangé dans ma bibliothèque.
À la recherche.
J'ai la couverture en tête, mais le titre exact. À la recherche, oui, c'est de quelque chose. Mais c'est ça, oui.
De quelque chose perdu.
Voilà.
En tout cas, si vous voulez. De l'espoir perdu. Voilà, on nous le glisse en régie. Mais du coup, voilà, vous pouvez aller le retrouver sur notre site internet. Il y a une section avec nos livres. Dedans, il est dedans. Pas besoin de payer, etc. Il est sur le site, donc vous le retrouverez. Si ça peut vous ouvrir à ce genre de choses, parce qu'on ne le voit que à travers le prisme des médias, puisqu'on n'y est pas, on ne le vit pas, et les réseaux sociaux ne sont pas toujours non plus les meilleures sources d'informations. Donc c'est quelque chose où on doit s'éduquer sur ce genre de choses. On l'a dit, éducation aux médias, les médias, alors pas forcément qu'ils nous mentent, mais ils nous montrent une réalité qu'ils ont envie de nous montrer, une réalité aussi des fois un peu financière, il faut le dire, ou orientée. Tous les médias en font partie, donc ouvrez votre esprit. Et en parlant d'ouverture d'esprit, l'esprit critique, se dire, ok, là on me donne une information, on me dit, ah ok, Israël s'est fait attaquer, Pourquoi? Comment? Quelle a été la réponse? C'est tout ce genre de questions. Et on voit beaucoup de... Vous savez ce que c'est, le journalisme constructif?
Non.
Non.
Ok, il y a des organismes comme ça qui sont en train d'aller chercher les médias, dont là, pour moi, il y en a qui sont mis avec ça comme Nostalgie ou Énergie, qui sont dit, désolé, à la concurrence avec Equinox. Mais c'est pas du tout une concurrence, c'est de se dire que... Il y a une association qui s'appelle New Six qui va chercher les médias, tous, ok, tous, RTBF, RTL, tout ce que vous voulez, les petits, les locaux, tout le monde, pour les initier au journalisme de solutions. En fait, c'est pas du journalisme positif où on se dit, oh, il se passe ça, c'est trop bien dans le monde. C'est de se dire, ok, on a un problème, mais on va prendre le temps d'envisager à 360 degrés le problème, les solutions surtout, ce qu'il y a. En journalisme, il y a les 5 W, le qui, quoi, que, ou comment, etc. Et ici, on a le sixième, qui est le what do we do now, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant. Okay, on aura le temps d'encore un petit peu discuter de tout ça, de l'Ukraine, aussi de la Palestine, d'Israël, de la Russie, de tous ces conflits dans le monde, juste après une petite chanson qui est très clairement dans le thème. On va écouter un des plus grands classiques de Statu Quo. Thank you. C'est du patriotisme qu'on entend là dans cette chanson, c'est de l'armée, du militaire et la force des États-Unis. Voilà, on a voulu la mettre parce que c'était vraiment dans le thème. Est-ce que ça transpose les valeurs qu'on a envie de transposer ? Peut-être pas, parce qu'ici, donc, je le rappelle, on est sur Equinox FM et c'est Scanner qui présente l'émission. Donc, on a à chaque fois un sujet tous les derniers mercredis du mois et ce mois-ci, c'est la guerre, c'est le conflit. C'est pas marrant, mais c'est pourtant très important et intéressant. Et ici, donc, on vient d'un petit peu discuter d'Israël, Palestine, de Ukraine, Russie. C'est des choses qu'on ne peut pas louper. Et justement, Bruno, tu l'avais un petit peu introduit tantôt, l'envoi d'armes, l'aide militaire internationale, comme ça, via des alliés, soi-disant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous... La Belgique, ce petit pays, mais qui n'est pas si peu important dans le monde, est-ce qu'elle a à envoyer des armes, des munitions, des F-16 ? Est-ce qu'elle a à punir des pays de leurs actions ?
Bah, je pense qu'en fait, l'envoi d'armes, ce n'est pas forcément une très bonne chose, dans le sens que bah, si on envoie des armes, on sera complice du pays à qui on envoie les armes. Ouais. Du coup, ça nous rend un peu, ennemi justement de l'ennemi de cet État-là. Mais d'un côté, je pense que, je ne veux pas dire que la Belgique est obligée, mais il y a des... au niveau de ses relations internationales, de ses alliances, bah, je veux dire, ne pas agir, c'est aussi peut-être un peu tourner le dos à son allié et peut-être aussi le considérer comme son ennemi aussi. Bah, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais...
Oui, mais est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas être l'ennemi d'une... Enfin, l'ennemi, non. De tourner le dos à un allié plutôt que d'aider un allié et se faire un ennemi. Parce que si tu aides un allié, l'autre, il ne va pas bien le prendre.
Oui, mais si on tourne le dos à un allié, est-ce que ça ne devient pas un ennemi ?
Ah, c'est une bonne question. Refaisons le monde jusqu'à 18h.
pour revenir à la Belgique, je vais faire un peu de pub sur un article que j'avais écrit. L'année dernière, j'avais écrit un article sur la fabrique nationale des munitions ici à Herstal.
Bien sûr.
Et en fait, c'était dans le cadre d'une conférence organisée par Amnesty. Et en fait, c'est là que je m'étais rendu compte que la petite Belgique, au niveau de tout ce qui est... le marché des armes et surtout des munitions. En fait, la Belgique a vraiment un poids et on a vraiment notre expertise dans ce domaine-là. Et la problématique qui vient en fait avec la fabrique des armes, c'est qu'il y a un problème pour la traçabilité. Et on s'était rendu compte que des armes fabriquées en Belgique se retrouvaient aux mains des terroristes, des djihadistes. Et en fait, il y avait même il y a une arme belge, je ne me souviens plus du nom, qui était devenue une arme favorite.
Ok. Super.
Voilà. Et en fait, le problème avec moi, j'ai pas, enfin, dans le cas du conflit avec l'Ukraine et la Russie, j'ai moins de mal avec le fait d'aider l'Ukraine parce que c'est assez clair que on va dire entre guillemets un État souverain qui se fait envahir. C'est un cas très typique de droit international, donc c'est très facile à analyser. Mais pour ce qui est du conflit israélo-palestinien, là, ça devient plus compliqué parce que on n'est pas en face de deux armées de forces entre guillemets égales qui se battent. On a une superpuissance militaire qui est Israël. Il faut pas l'oublier. Israël est né et depuis sa naissance est en guerre. Donc ouais. en termes de formation et de compétences par rapport à l'art de la guerre, entre guillemets. Mmh. C'est vraiment un État qui est vraiment à la pointe de la technologie. Et je pense qu'en ayant ça en tête, on peut essayer peut-être de réguler. Après, je ne pense pas que l'Union européenne envoie des armes à la Palestine. Pour l'instant, il n'y a que les États-Unis qui sont exprimés par rapport à ça. Mais c'est vrai que au-delà du fait d'envoyer des armes, le plus important, c'est la traçabilité et ce qu'on en fait. Parce que, enfin, je vais terminer sur ça parce que j'ai un peu monopolisé la parole. À l'issue du conflit en ex-Yougoslavie, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que toutes les armes qui ont été envoyées aux différents belligérants sont retrouvées ici, dans nos pays. Donc, c'est bien d'envoyer des armes, mais c'est mieux de contrôler ce qu'on va en faire par la suite.
C'est sûr. Et tu crois que c'est possible de pouvoir les tracer ?
C'est une volonté politique. Ouais. Parce que, on avait eu l'occasion de parler, avec le ministre qui était en charge de ça, donc pour Herstal, c'était le ministre-président de la région Wallonne, donc c'était Ilieu, à l'époque c'était Ilieu du Repos. Et en fait, c'est juste une question de pour les munitions, c'est compliqué parce que voilà, tracer les munitions, c'est compliqué, mais les armes, il y a moyen.
Ouais.
Mais malheureusement, ça reste un milieu où la transparence, voilà, n'est pas une valeur, une qualité partagée.
Mais ce que je me demande aussi, justement, avec cette histoire de traçabilité, c'est est-ce que le fait de faire tracer les armes, ça ne réduirait pas, du coup, l'envoi d'armes à certains groupes armés ou quoi, et que, économiquement, pour la Belgique, ce n'est pas forcément quelque chose de souhaitable pour elle. Je veux dire, l'argent est quand même...
de la guerre.
C'est ça. Je veux dire, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'envois d'armes de la Belgique parce que c'est un poste... Je ne connais pas les chiffres du tout, mais je pense que c'est quand même un poste important en termes d'argent qui rentre, on va dire, pour la Belgique. Donc, je pense que la Belgique, il n'y a pas que le côté moral, entre guillemets, d'envoyer les armes, mais il y a aussi le côté financier qui doit quand même vraiment jouer pour moi.
Le financier joue dans tout. On dit que c'est le nerf de la guerre, mais pour la guerre, mais aussi pour tout. Ici, il n'y a qu'à regarder. Zelensky, quand il vient, enfin, Volodymyr Zelensky, lorsqu'il vient à Bruxelles, il ne vient pas chercher le sourire de Decroix. Hein. Il vient chercher de l'argent ou des financements ou des choses qui coûtent de l'argent. La Russie, comment est-ce qu'on la punit? Est-ce qu'on la bombarde? Non. On la punit financièrement. C'est toujours. Toujours le nerf de la guerre pour tout.
Mais pour la Wallonie, c'est vrai qu'en fait, le problème avec les contrats par rapport aux ventes d'armes, c'est que c'est tellement opaque que même les organismes des pouvoirs publics n'étaient pas en capacité de voir l'impact du secteur de l'armement dans l'économie wallonne. Et donc, cet argument, en fait, quand on posait des questions, ça tombait un peu à l'eau parce qu'ils disaient, concrètement, on ne sait pas vous dire. Même si je reste persuadé que, pour moi qui habite Herstal, c'est vrai qu'on voit que la fabrique, ça reste quand même quelque chose de très important pour l'économie locale. Mais comme je dis, si on trace les armes, on va un peu avoir plus de responsabilité par rapport à ce qu'on en fait. Parce que je pense que ça reste assez compliqué.
Écoute, c'est super intéressant. Malheureusement, nous, on a envie de dire, voilà, ça c'est fait, ça ce serait simple, ce serait mieux. Mais on n'est pas des personnes, malheureusement, qui s'y connaissent tant que ça. Et c'est pour ça qu'il est toujours important d'aller trouver des sources fiables pour pouvoir prouver ce qu'on dit. Et ça, c'est ce que Emma a fait en allant interroger son professeur d'université. Emma, est-ce que tu peux nous dire très rapidement qui c'est ?
Donc, il s'agit de Monsieur Depré, qui est professeur à l'Université de Liège, notamment de droit international humanitaire, autrement dit, le droit des conflits armés ou le droit de la guerre.
Et tu lui as posé quoi comme question ?
Vous allez voir.
On écoute ça tout de suite.
Je voulais vous demander si pour vous le conflit russo-ukrainien peut être considéré comme légal ou non.
Donc en droit international, c'est la Charte des Nations Unies qui répond à cette question, qui détermine si le déclenchement d'une guerre, d'un conflit armé est licite ou illicite. Et cette charte, sur le principe, elle est très claire. Donc la guerre est en principe interdite en droit international. Les États ne peuvent pas envahir des territoires étrangers, ils ne peuvent pas recourir à la force armée contre d'autres États. Alors bien sûr, il existe des exceptions, un peu comme pour tout principe juridique, et la principale d'entre elles, c'est le recours à la légitime défense, ce qu'on appelle la légitime défense, article 51 de la Charte des Nations Unies. Parce qu'on comprend bien, évidemment, qu'un État qui se voit agressé par un autre État, cet État, il a le droit de réagir. C'est un peu la situation de l'Ukraine, justement. L'Ukraine a le droit de se défendre de façon proportionnée. Le problème, c'est que depuis une vingtaine d'années maintenant, certaines puissances, certains États ont tendance à faire un usage contestable, un usage qui est en tout cas largement critiqué de ce droit à la légitime défense, dans des termes et selon une manière qui va bien au-delà de ce qui était prévu par les rédacteurs de la Charte des Nations Unies. Et d'ailleurs, c'est précisément ce que fait la Fédération de Russie en l'espèce, puisque l'argument de Vladimir Poutine pour tenter quelque part de justifier l'agression, l'envahissement du territoire ukrainien, c'est d'invoquer la légitime défense, invoquer en tout cas une forme de légitime défense préventive. Donc le recours à la force par la Russie ici contre l'Ukraine serait employé pour prétendument se prémunir, disons, de la menace que l'Ukraine ferait peser sur la Russie et ou potentiellement sur des citoyens russophones dans l'Est de l'Ukraine. Alors c'est bien sûr en pur droit international un argument qui ne tient pas, qui n'est pas valable, qui ne change rien au caractère illégal, donc pour répondre à votre question de l'invasion d'une partie du territoire ukrainien, mais c'est l'argument de la Fédération de Russie, et d'ailleurs c'est un raisonnement qui n'est pas tellement éloigné de celui qui a déjà été invoqué par le passé, par d'autres États, en particulier je pense aux États-Unis, pour justifier la guerre en Irak en 2003.
Je voulais également vous demander, que ce soit dans la guerre ukrainienne ou même dans les autres guerres en général, quel rôle pouvaient avoir pour vous les jeunes dans ces guerres et en quoi l'armée elle pouvait trouver que les jeunes pouvaient contribuer justement à ces guerres en fait.
Les enfants et les jeunes, de façon plus générale, peuvent être amenés à endosser deux rôles, si je puis dire, dans le contexte de conflits armés. Dans certains cas, d'abord, on sait qu'ils font l'objet d'un... Certains enfants, certains jeunes font l'objet d'un recrutement, donc sont impliqués directement dans le conflit. Alors c'est évidemment interdit. En droit international, les États, les groupes armés doivent s'abstenir de recruter dans leur rang des personnes mineures, donc des personnes de moins de 18 ans, ou en tout cas selon les instruments les plus flexibles, parce qu'il n'y a pas une cohérence parfaite au niveau des normes internationales à ce sujet, mais selon les outils vraiment les plus permissifs, en tout cas des enfants de moins de 15 ans. Donc il y a une interdiction absolue de recruter des enfants soldats à tout le moins de moins de 15 ans dans les forces armées, et pourtant c'est un phénomène qui constitue une réalité. Notamment dans le cadre du conflit en Ukraine. On a en tout cas entendu beaucoup parler il y a quelques mois de camps de formation qui auraient été mis en place par ce régiment qui a beaucoup fait parler de lui, le régiment d'Azov associé aux forces armées ukrainiennes. Donc en effet, le phénomène des enfants soldats, certainement une première réalité. Alors d'un autre côté, les jeunes, ce sont surtout des victimes, et puis des victimes particulièrement vulnérables encore des conflits. Et là, à nouveau, la guerre qui oppose le conflit armé qui oppose l'Ukraine à la Russie ne fait pas exception. Que du contraire, puisque je vous parlais il y a un instant du mandat d'arrêt qui a été émis par la Cour pénale internationale à l'encontre du président russe. Il faut savoir que c'est pas le seul mandat d'arrêt. Il y a à tout le moins un deuxième. Alors tous les mandats d'arrêt de la Cour ne sont pas toujours publics par ailleurs, mais on sait en tout cas qu'il existe un second mandat d'arrêt qui vise la commissaire aux droits de l'enfant du président Vladimir Poutine. Et donc précisément, ces deux mandats d'arrêt concernent des faits de déportation forcée d'enfants ukrainiens vers le territoire russe, ce qui potentiellement constitue un crime contre l'humanité au sens du droit international. Donc ça, c'est la deuxième, évidemment malheureuse réalité des enfants en lien avec les conflits. Ce sont évidemment les enfants comme victimes.
Et je voulais vous demander, en tout cas, c'est une impression qui ressort, c'est que il y a un peu une critique, on va dire, de la part des jeunes pour tout ce qui est guerre, armée. Est-ce que ce qui, pour vous, pourrait expliquer en fait un peu cette méfiance ou cette critique envers l'armée, et quels seraient les arguments justement qui pourraient justifier que c'est quand même vraiment nécessaire l'armée en Belgique ou à l'étranger?
Oui, mais donc là, en effet, c'est un débat qui oppose d'une part le pacifisme à d'autre part l'intérêt de se doter d'une puissance militaire importante. C'est évidemment un très très grand débat. Si j'en reviens en tant que juriste internationaliste à la charte des Nations Unies, en 1945, l'idée, l'espoir, effectivement, c'était celui-là, c'était de concentrer le droit de recourir à la force, le droit de faire la guerre quelque part entre les mains d'un seul organe qui est le Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, à la suite de ce développement fort important, à la suite de l'adoption de cette charte des Nations Unies, eh bien, certains États ont fait le choix de démanteler leurs armées nationales. C'est le cas du Costa Rica, par exemple. Fin des années 40, le Costa Rica a abandonné, a démantelé son armée. Et puis, ce qui devait au départ être un véritable projet onusien, un projet d'armée des Nations Unies aux mains du Conseil de sécurité, n'a jamais été véritablement concrétisé. Donc, en pratique, lorsque le Conseil de sécurité n'est pas bloqué par un droit de veto, lorsqu'il intervient effectivement dans le cadre de certains conflits, c'est non pas via une armée qu'il aurait et qu'il n'a pas, mais en habilitant plutôt un État ou plusieurs États dans le cadre d'une coalition internationale à engager une action militaire. Donc quelque part, l'idée d'un pacifisme pur et simple, disons, ou en tout cas de tendre vers l'abandon des prérogatives militaires des États, elle n'est pas vraiment, ou en tout cas elle n'est plus vraiment en phase avec la pratique du droit international contemporain, avec la façon dont en tout cas le droit international lui-même conçoit actuellement, en 2023, la gestion de la paix et de la sécurité collective. Par ailleurs, les temps sont évidemment assez défavorables à cette idée. Quelque part, c'est clair que la guerre appelle la guerre, et donc le gouvernement belge, par exemple, a significativement augmenté le budget de la défense suite au début, enfin c'était pas exactement le début, mais en tout cas à la poursuite de la guerre en Ukraine et l'accentuation de la guerre en Ukraine à partir de février 2022. Donc autant il y a eu sans doute des momentum, des périodes de l'histoire où le pacifisme était un idéal qui était pris tout à fait au sérieux, autant je crains qu'à l'heure actuelle, l'ambition des États, de la communauté internationale, soit plus de minimiser les dommages collatéraux, les effets de la guerre sur le terrain, par exemple pour les civils, plutôt que d'espérer voir véritablement les États renoncer de façon générale à la guerre.
Et merci à Christophe Depré pour cette interview et merci Emma pour avoir posé les questions. Pierre, Bruno, je vous ai vu vraiment bien concentré pendant toute l'interview à écouter ça, à écouter les paroles de Christophe Depré avec énormément d'attention comme ça. Ce qu'on retient un peu de la fin, c'est de se dire, ok, la paix, c'est pas possible, c'est impossible, même le monde ne veut pas la guerre, mais on peut limiter les pertes. Vous en pensez quoi ?
C'est vraiment désolant, vraiment là, j'étais vraiment concentré parce que, ouais, ce dont tu parlais à la fin, ben, c'est juste triste de voir qu'il y avait cet idéal qui venait après la Deuxième Guerre mondiale de se dire qu'on allait désarmer... qu'on allait essayer de se désarmer et vraiment de laisser tout ça derrière nous et que ben, plus le temps avance, plus ben, les États finissent par se résigner à se dire ben, « Non, la guerre, c'est inévitable, il faut bien être capable de se protéger, de se battre quand il faut, et c'est comme ça. Où sont les beaux rêves, où sont les beaux idéaux pour lesquels nos ancêtres se sont battus ?
Mais est-ce qu'un rêve ne doit pas rester un rêve, au final ? Est-ce qu'un rêve, c'est pas... À la nuit, quand on dort, quelque chose qu'on essaye de s'imaginer, c'est quelque chose de pas forcément possible.
Mais si je peux,
j'aimerais, bien sûr.
Rebondir. Déjà, il faut rêver, c'est très important.
C'est sûr.
Il faut s'ennuyer aussi, c'est super important aussi. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce que disait Pierre, je pense qu'il y a rien de pire que les grands indifférents. C'est à partir du moment où dans notre société, il y a des gens qui sont indifférents à tout. C'est à ce moment-là aussi qu'il faut se préoccuper et se poser les bonnes questions. Mais par rapport à l'interview. C'est super instruisant d'avoir été trouvé cette personnalité. Et dans un conflit, ce que je pense qui est vraiment nécessaire, c'est de comprendre le conflit. Mais comment est-ce que on va comprendre le conflit ? C'est en contextualisant chaque fait qui nous est présenté. Donc comprendre n'est pas synonyme d'excuser. Et c'est pour sûr. Ça que, par exemple, quand on a un conflit aussi complexe que celui entre Israël et Palestine, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention de savoir quand a débuté ce conflit, qui ont été les acteurs majeurs, qui a participé et comment est-ce que ça se fait qu'on se retrouve encore et encore avec un nombre incalculable de blessés et de morts du camp palestinien.
Ouais, le contexte, c'est super important, que ce soit dans les petites choses de la vie, hein, quand ta copine ou ton copain te dit « Ouais, machin, t'as fait ça, oui, mais pourquoi, comment, etc.
»
Et j'ai bien aimé la phrase que tu dis alors, expliquer, c'est pas justifier. Attention, c'est super important dans tout. On peut expliquer un comportement qui est horrible, mais jamais justifier, attention. Et lorsque tu as parlé du contexte, il y a un truc qui m'est venu en tête et dont je voulais vous parler, qui est, ça m'a vraiment énormément surpris. Donc on est au début, pour la petite histoire, on est au début du conflit ukrainien, il y a eu les premiers bombardements, on se dit purée, la Russie envahit l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe ? Début de la guerre, moi je me dis oh là là, qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Est-ce que, alors que même ça arrive dans plein d'autres pays, on est d'accord, mais à ce moment-là on était vraiment sous le choc. Les médias parlaient que de ça, et moi mon premier réflexe c'est de sonner à une amie qui est ukrainienne et qui a de la famille en Ukraine. Je me dis... comment ça se passe là-bas ? Est-ce que sa famille va bien, tout ça ? Je lui sonne et elle était totalement genre décontractée, etc., sans souci. Et je lui dis, et quoi, ta famille, tout ça ? Elle dit, ben non, là, ils sont en sécurité pour le moment, eux. Mais elle m'a dit cette phrase qui m'a choqué. Elle m'a dit, on l'a cherché. Et je me suis dit, attends, l'Ukraine, que tout le monde est en train de dire, oh, les pauvres, ils sont attaqués. Elle m'a dit, on l'a cherché. Ça fait des années qu'on cherche la Russie. Pour qu'ils nous fassent ça. Et c'est là qu'on voit que le contexte est super important et que les médias ne nous parlent pas de ça. Qui ici, dans cette pièce, s'est dit « Ouais, l'Ukraine, finalement, elle l'a un peu cherché. »
Alors moi, si je peux conseiller un média qui est ultra pertinent, c'est Le Monde Diplomatique. Donc si vous voulez vraiment, vraiment du journalisme de qualité, d'habitude, ils font du beau travail. Et ils sont revenus aussi sur le fait que, oui, il y a des néo-nazis qui sont présents en Ukraine et qui s'amusent à faire des cortèges, tout ce que vous voulez, mais je pense, si mes souvenirs sont bons, que c'est quand même une minorité et que c'est de toute manière pas une justification pour envahir un territoire ou pour agresser son voisin. Donc voilà, mais Le Monde Diplomatique, enfin sans vouloir faire leur promo, je travaille pas pour eux, mais si vous voulez une bonne référence,
si, c'est à retenir bien sûr. Fortuné, je sais bien que t'avais un truc à dire.
En fait, j'ai exactement tilté sur la même phrase que Bruno a dit par rapport au fait que expliquer n'est pas justifié, parce qu'en fait quand il y a eu l'attaque le 7 octobre, comme j'ai dit, moi, c'est un conflit auquel je m'intéresse depuis, on va dire, maintenant une dizaine d'années. Bah, j'ai pas eu d'effet de surprise. Et puis, enfin, j'ai commencé à voir tout le monde, enfin, y mettre un peu du sien et crier partout. Et puis, je voyais l'injonction qu'on avait à ne pas expliquer la situation. Et moi, c'est une chose qui m'a beaucoup surpris parce que c'était la première fois, je pense. Je pense que c'était la première fois qu'on voyait un conflit que tout le monde connaissait. Mais que lorsqu'on essayait d'expliquer ça, on nous disait « Ouais, mais t'es un islamiste, t'es un terroriste. » Mais non, enfin, on peut pas juste dire qu'il y a eu une attaque qui sort de nulle part comme ça, sans raison, et qu'on a attaqué. Enfin, c'était gratuit. Et tu tuais des gens, c'est gratuit, c'est toujours gratuit, parce qu'on s'est pas attaqué à des soldats, mais il y avait une cause à ça, c'est pas justifié ça. Et c'était vraiment la première fois que je voyais à la télé, je regardais la télé, et c'était la première fois que je me suis dit, mais enfin, j'éteignais, je me dis, mais c'est pas possible, comment ça, on peut pas dire le contexte. Ouais. À quel moment expliquer les choses? À quel moment on refuse de prendre de la hauteur et essayer de comprendre les choses? À quel moment la seule chose qui compte, surtout en géopolitique, bah, c'était les sentiments? Et c'est vrai que j'étais quand même assez déçu de nos médias et la façon où ça a été traité, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment... C'était pas digne des soi-disant démocraties que nous sommes censés être.
Écoute, je pense qu'il y a quelque chose à se dire lorsqu'on parle d'une guerre, comme de beaucoup de choses, mais je pense d'une guerre encore plus. C'est lorsqu'on en parle, lorsqu'on donne notre avis, même lorsqu'on fait nos recherches. Alors, c'est un des plus grands hommes de cette ère qui l'a dit, mais je sais que je ne sais pas. C'est-à-dire, ok, je ne comprends pas tous les rouages. C'est Socrate qui l'a dit, donc voilà, ne remettez pas ça en question, s'il vous plaît. Mais c'est dire, ok, j'en parle, mais je connais pas tous les rouages. Alors oui, peut-être que je vois des choses qui sont horribles. Il y a sûrement des choses derrière, dans les deux camps. Une guerre, de toute façon, c'est jamais enviable. Ça, je pense qu'on peut tous être d'accord avec ça. C'est jamais ce qu'on veut. Et tu le disais tantôt, Pierre, la paix n'est pas possible. Enfin, tu l'as entendu et tu as réagi à ça plutôt. La paix n'est pas possible. Ce qu'il faut faire, c'est limiter les dégâts. Se dire que peut-être que lorsqu'on parle de la guerre, il faut aussi se dire ça. Je peux pas tout savoir, pas tout comprendre, mais je peux essayer de m'informer le plus possible. Donc, renseignez-vous. Couper les sources, trouver des sources fiables, c'est super important, des sources pertinentes. Mais en tout cas, il y a une personne qui sait. Elle sait, et c'est pour ça qu'on va s'entendre, s'écouter une petite chanson de She Knows. Alors, après, la chanson, c'est She Knows, et le nombre de personnes qu'il y a, je vais essayer de pas bégayer en les disant, Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta, Afrobros et Icon avec She Knows. She knows it.
She knows, she knows, she knows.
Et il est 17h44 sur Equinox FM, vous êtes avec l'équipe de Scanner. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de la guerre. Alors oui, c'est pas très chouette comparé à la chanson qui vient d'arriver. Ça fait donc 45 minutes qu'on est en live et on a discuté de conflits, de tout plein de choses qui touchaient notamment l'Ukraine, la Russie, l'Israël, Palestine. Évidemment, on ne peut pas louper ce genre d'émission, ce genre de sujet, pardon, lorsqu'on parle des conflits. Si vous voulez réécouter ce qu'on a pu dire et de quoi on a pu débattre, alors on est rediffusé ce dimanche ou alors vous aurez bientôt le podcast sur notre site, sur Spotify, sur plein d'endroits. Si vous voulez réécouter cette émission qui était très intéressante, mais comme l'indique cette musique très joyeuse, on va un petit peu lâcher le côté plus dramatique de la guerre pour essayer de plus parler de paix, de résiliation, de comment résoudre nos soucis, nos conflits et toutes ces guerres. Je vois qu'ici on danse dans le studio pour dire voilà, la paix dans le monde. Mais on va passer à nos deux jeux de fin d'émission qu'on a l'honneur de faire tous les derniers mercredis du mois. On a d'abord le duel de lettres. Je rappelle très rapidement le concept. Je vous ai donné un sujet en début de mois et vous avez dû écrire, ici deux personnes, Emma et Pierre, écrire un texte dessus. Ici le sujet c'est « La plume est-elle plus forte que l'épée ?» et je vais laisser Emma commencer.
Ouh là là, quelle pression. Ok. La plume est-elle plus forte que l'épée? Vaste question, me direz-vous, qui ne manque pas de faire couler beaucoup d'encre. C'est vrai, un discours sur un bout de papier peut-il rivaliser avec des soldats armés? Un courrier engagé peut-il décourager les puissants d'envoyer sur le front des personnes n'ayant parfois rien demandé? Un appel à la paix peut-il empêcher toute cette brutalité? Malheureusement, il me semble qu'actuellement la réponse soit non. Des personnes ont essayé de s'élever contre ces conflits, dont parfois on oublierait même l'origine, sans que le résultat ne s'en suive. Beaucoup ont manifesté contre la guerre au Vietnam ou encore celle en Ukraine, sans que cela ait pourtant eu beaucoup d'effet. De nombreuses lettres ont été envoyées pour protester contre les conflits armés, sans que pour autant ceux-ci ne cessent d'exister. Mais il n'advient qu'à nous de changer cela. Pardon. Alors, attrapons tous nos crayons insérés et levons notre armée de papier. Battons-nous par les mots, pour que plus jamais ne soit décoré un militaire décédé. Protestons par la voix, pour ne plus voir des familles décimées par la guerre. Contestons par écrit, pour éviter que des personnes doivent se blesser, pour ne pas avoir à tuer autrui.
Et votons pour Emma pour ce duel de lettres. Merci Emma pour ce beau Merci. Texte. Je n'ai pas encore trop parlé, on va laisser Pierre lire le sien. Pierre qui revient depuis des mois pour faire un duel de lettres de légende, j'imagine.
Je sais, j'espère me montrer digne. Alors... La plume est-elle plus forte que l'épée? Lorsque le thème de la guerre revient sur le tapis, cette question ancestrale revient toujours. La violence est-elle une fatalité? Peut-on réellement vaincre par la parole? Bien sûr que dans un monde idéal, c'est le verbe qui est utilisé pour régler un différend. Et après tout, dans notre monde civilisé, de nombreux discours en chambre politique séparent chaque décision de son application. L'épée est encore subordinée à la plume en quelque sorte. C'est le pouvoir humain de persuasion par la parole, qui permet aux avis de changer et qui permet au canon de se baisser. Mais il est si facile en théorie d'accorder de grands pouvoirs à nos idéaux. On parle toujours de la force de l'amour. L'amour est la plus grande force qui soit, mais dites-moi donc. Lorsqu'on retrouve assassiner une mère et son enfant, est-ce que c'est parce qu'ils ont été impuissants face aux balles? Est-ce que c'est parce qu'ils ne s'aimaient pas assez? Essayez un peu de brandir vos pancartes face à une mitraillette et vous ferez un avis sur le terrain. La plume, mesdames et messieurs, n'est pas plus forte que l'épée, elle ne l'a jamais été. Et c'est exactement pour cela qu'il faut porter la plume. L'idéal que nous cherchons est un monde sans violence, où les conflits se règlent pacifiquement. La réalité, c'est que ce que nous voulons n'est pas un monde où la plume est plus forte que l'épée, mais un monde où il n'y a pas besoin de force, tout simplement. La force la sert à conquérir ou à se protéger. La plume ne peut faire ces choses, mais peut-être peut-elle nous aider à créer un monde où la force est réservée à des compétitions et où les conflits ne sont plus que des formalités administratives. En attendant, l'épée est une condition pour négocier, alors gardons-la prudemment dans notre fourreau avec l'intention de ne jamais la dégainer. Mais tant que la force est demandée en ce monde, mieux vaut être capable de se protéger.
Et toi Pierre, garde toujours ta plume, ne brandis jamais ton épée. Écoute, il va falloir désigner un plus ou moins gagnant, on va dire ça, de cette émission, de ce duel de lettres. Et je pense qu'en revenant, Pierre, tu t'es déjà fait une place, mais ton texte était vraiment très très beau, celui d'Emma aussi. Mais j'ai eu un petit faible pour le côté un peu théâtral et bien retourné de ton texte. C'est toi qui l'emporte cette semaine-ci. Mais Emma, n'abandonne pas, tu vas pouvoir te rattraper dans notre deuxième jeu qu'on lance tout de suite, le Spotify. Plus ou moins le même concept, pardon. Je vous ai donné un thème et vous avez dû trouver un extrait musical qui convient bien à ce thème. Emma, ce n'est pas toi qui va commencer, ça va être Bruno. Bruno qui, lui, n'a pas encore participé à un jeu. Le thème du Spotify de ce mois-ci, puisqu'il est en rapport avec la guerre, c'est la musique qui a le message le plus pacifique. Pour changer un petit peu de cette émission, Bruno, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Alors, j'ai pris des notes parce que c'est toujours mieux, enfin c'est très délicat, c'est toujours plus simple d'avoir des notes historiques. Donc, je voulais pas choisir une chanson de John Lennon pour pas que ça sonne trop cliché. J'ai choisi un titre de Calogero, encore une fois, c'est la deuxième fois que je choisis cet artiste français.
C'est beaucoup.
C'est une vieille chanson, enfin pas si vieille que ça quand on y pense, mais qui fait référence au massacre des manifestants en 1989 sur la place Tiananmen à Pékin. Donc ils manifestaient pour avoir plus de liberté de presse, de liberté de parole. Ils se battaient contre la corruption, ils voulaient vraiment une vraie démocratie. Puis on a donné l'ordre, le parti en Chine a donné l'ordre de vider la place par tous les moyens. Et c'est à ce moment-là qu'un homme s'est dressé face à un tank avec ses sachets et il a marqué l'histoire. Mais je vous laisse écouter.
Quand les yeux ont tout vu et tout subi, que même les dieux ont perdu de leur magie, quand les mots ne vous répondent plus, on courbe le dos. Un jour le bout de la rue vous mène là, à Tiananmen.
Chanson très très triste hein, mais très très belle. Bruno, tu sais rappeler le thème, le texte, oula pardon, le titre, waouh, je vais arriver.
Tiananmen, et à chaque fois que j'écoute ça, j'ai l'impression qu'il veut nous dire que ça peut arriver à chacun de nous,
c'est sûr.
À chaque jour.
C'est sûr, c'est très beau. À toi Pierre.
La chanson que j'ai choisie, ben je l'ai choisie parce que ce qui émeut le plus pour moi dans la guerre, qui amène le plus le pacifisme, c'est la souffrance des enfants et qui sont les vraies victimes à chaque fois. C'est pour ça que j'ai choisi Dirty Harry de Gorillaz.
Et le gagnant du duel de lettres, du coup, qui vient avec cette chanson-là, maintenant, c'est à Emma, la moins gagnante. Écoute, dans une guerre, il y a des perdants et des gagnants. De répondre à la musique qui a le message le plus pacifique.
Ok, donc moi, j'ai pris une musique que je pense tout le monde connaît à peu près. Et je trouve que l'artiste qui l'interprète a l'air, en tout cas, très peace and love, très pacifique. Donc,
John Lennon.
Non, non, non. Donc, je vais vous laisser écouter pour vous faire un avis là-dessus.
Que tu peux donner titre et artiste.
Oui, donc c'est Laurent Voulzy et c'est Le pouvoir des fleurs.
Merci Emma. Il ne reste plus que Fortuné. Fortuné, quel a été ton choix ce mois-ci?
Souvent, parmi les catastrophes naturelles, on ne met pas la guerre. Mais pour moi, la guerre est une catastrophe naturelle parce que l'être humain fait partie de la nature. Et j'ai choisi une chanson qui a été faite après une catastrophe naturelle. Donc, écoutez.
Fortuné, je vais te dire quelque chose. Si tu me cites tous les artistes, tu as gagné.
Impossible. Bah, je vais citer le meilleur, c'était Michael Jackson.
Ah, ça c'est très subjectif.
Bob Dylan qui tire la gueule aussi, c'est magique.
Non, mais rien que voir le clip, le nombre de personnalités connues quand tu vois dedans, c'est vraiment incroyable. Écoutez, comme chaque mois, il faut que je désigne quelqu'un qui a gagné ce mois-ci le Spotify. C'est compliqué parce que c'est un thème où t'as pas envie de faire de choix, t'as envie de donner la paix et la victoire à tout le monde. Mais j'ai quand même eu un petit faible. C'est pour la beauté de la paix. Et la beauté de la paix, moi je l'ai plus ressenti avec la chanson de Calogero de Bruno. Du coup, peut-être qu'on peut se la réécouter si la régie a envie de le mettre, celle de Bruno, donc le Spotify de Calogero.
quand les yeux ont tout vu et tout subi, que même les dieux ont perdu de leur magie, quand les mots ne vous répondent plus.
Et maintenant qu'on a tous la larme à l'œil, merci Bruno, on va devoir aussi se quitter, ce qui est tout de suite très triste. C'est la fin de cette émission de... Hop, voilà, on a eu un petit cri de caladérant en plus. C'était bonus, vraiment, c'était pour nous. Donc, c'est la fin du coup de cette émission de 17 à 18 de Scanner. On est rediffusé ce dimanche de 14 à 15, je pense. Voilà, c'est ce dimanche qui a écouté Kinox FM toute la journée dimanche. Sinon, vous pouvez nous retrouver et retrouver l'émission et aussi plein d'autres choses, des textes, des livres, des dossiers thématiques sur le site scan-r.be, sur nos réseaux aussi, c'est toujours c'est scan-r.be. Vous le retrouvez à chaque fois sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. Et aussi, sinon, c'est aussi un petit peu l'instant promo, étant donné que ce 18 novembre, on organise un gros événement où vous tous invités, c'est pour nous, okay, c'est à la Grand Poste de Liège, donc ça ne devrait pas être très loin de chez vous si vous écoutez LFM, Kinox FM, oh là 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 là, oh la boulette, du coup vous êtes tous invités le 18 novembre à la Grand Poste par Scanner, il faut vous inscrire sur notre site, c'est un gros événement où vous allez pouvoir discuter de plusieurs sujets, alors c'est focus sur les jeunes, donc de 12 à 30 ans, on a la précarité, la jeunesse, la migration et le genre, c'est les thèmes principaux de l'émission, de l'événement. On va en discuter la matinée avec des personnalités publiques, des politiciens, des médias, etc. Et l'après-midi, il y aura de l'écriture de texte pour exprimer ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez sur le cœur. N'hésitez pas à partager cet événement, à en parler aux jeunes autour de vous pour qu'il y ait un maximum de monde et du coup un maximum d'impact, car votre voix mérite d'être entendue. La voix des jeunes n'est pas assez entendue, on le voit tous les jours. Et donc, voilà, c'est 18 novembre, notez bien, c'est toute la journée à la Grand Poste. Ça peut être très intéressant. Et après, lorsque vous aurez écrit votre texte, vous pourrez le dire devant les personnalités publiques. Il y aura beaucoup de monde, on l'espère, avec vous. Donc n'hésitez pas et n'hésitez surtout pas, si vous voyez quelqu'un qui est intéressé, de le ramener vers nous, scan-r.be. C'est la fin du coup de cette émission. Je vous le disais, je vous laisse maintenant aux mains d'Equinox FM. Toute l'équipe vous dit au revoir, passez une très très bonne journée et à dans un mois, le dernier mercredi du mois, pour encore un sujet sur les jeunes. Très bonne soirée à tous.
Ciao ciao.
Salut.
Salut tout le monde.
mots à la télé. La peur tourne en boucle. Quand je m'endors, je pense aux gosses. Un avenir plein de doutes.